nos vacances inattendues.
Ça se casse le cul, ça va se prendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu.
Profiter de l'herbe tendre.
Bouger.
Découvrir.
Aller d'émotions en sensations.
Le nord-ouest de la Sarthe.
L'est de la Mayenne.
Le sud de l'Orne. Découvrez vos prochaines idées de séjour et de sortie dans
Nos vacances inattendues.
Nos vacances inattendues vous emmènent en Sarthe, sur la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré. Et vous êtes Philippe Breton, le créateur et le gérant de 7e Ciel Montgolfière. De quoi s'agit-il ?
Donc il s'agit d'une petite société que j'ai créée il y a déjà près de 3 ans. On est sur la 3e saison. Et je propose le survol des Alpes Mancelles en Montgolfière. Le secteur, c'est entre Fresnay, grosso modo, et Saint-Léonard-des-Bois.
Alors, quand vous nous dites « je survole les Alpes Mancelles », est-ce que c'est vraiment vous qui décidez de ce que vous allez survoler ?
Pas tout à fait, parce qu'on est complètement dépendant du vent. J'ai 2 bases de décollage, une à Saint-Ouen-de-Mimbré et une à Saint-Léonard-des-Bois. Donc, en fonction de la direction des vents, je décolle de l'une ou l'autre. Mais après, en hauteur, on peut avoir des vents un peu différents qui nous emmènent un peu plus loin ou dans une autre direction. C'est ainsi que souvent, le matin, en décollant de Saint-Ouen, on va plus vers la plaine de Conly, par exemple. On survole Moitron, Saint-Cosme-de-Jambet, le Guélian, et quand même très sympa à survoler. Et on survole de toute façon des belles contrées dans la région. Il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous ? C'est la possibilité de voir des paysages, de faire des photos, ou est-ce que c'est de l'expérience, de sensation, finalement, d'être en altitude, porté dans une toute petite surface ?
C'est un peu tout ça. C'est voir leur région, parce que je fais voler beaucoup de monde de la région, en fait. J'étais venu ici en me disant qu'il y avait pas mal de tourisme et que le tourisme allait faire vivre. Et en fait, ce sont les gens de la région qui veulent découvrir leur région d'en haut, au calme. On entend les oiseaux, on voit tout ce qui se passe en dessous, parce qu'on ne va jamais très très haut. Et ils veulent voir leur région, et prendre des photos. Si on peut survoler leur maison, c'est encore mieux. Là, ils sont heureux, mais bon, c'est pas toujours évident. Ça, je promets jamais, parce que c'est le vent qui nous pousse, donc je vais pas toujours où je veux.
Alors, vous décidez au dernier moment de l'endroit d'où vous allez partir, si ce sera Saint-Ouen ou si ce sera Saint-Léonard, mais racontez-nous, quel que soit l'endroit d'où vous partez, comment ça s'organise, comment ça se passe pour les personnes qui vont faire ce voyage depuis le moment où ils arrivent avec leur voiture en se demandant ce qui va leur arriver, jusqu'au moment où ils reprennent leur voiture pour quitter la région, ou rester et faire autre chose.
Rester et faire autre chose, exactement. C'est très simple, on a toujours rendez-vous chez moi à la Giraudière, à Saint-Ouen, et en fonction des vents, justement, je décide d'où je vais décoller. Donc on part, j'embarque tout le monde dans le camion, et puis soit on démarre de Saint-Léonard, soit de Saint-Ouen, en fonction de ce qu'on veut survoler. Et ensuite, il y a le temps de déplacement, plus ou moins long, le temps de mettre le matériel en place, le temps d'un petit briefing, les règles de sécurité, l'explication de ce qu'on va faire à peu près. Ça demande une petite heure à peu près. Ensuite, on décolle, une heure de vol, parti pour une heure de vol à peu près, entre 50 et une heure et quart à peu près, suivant ce qu'on va trouver. Une heure de vol, et puis ensuite, il faut compter une petite heure pour replier le matériel et boire un pot après. Il y a toujours le petit pot avec la petite tartine de rillettes qui va bien, et puis le petit gâteau pour finir le vol. Et on ramène tout le monde à la Giraudière, récupérer leur véhicule, et puis avoir un petit diplôme avant de partir.
Les horaires, par contre, vous pouvez les déterminer sérieusement à l'avance ?
Alors c'est simple, de toute façon c'est toujours le matin ou le soir, tôt le matin ou tard le soir. C'est au moment où la masse d'air est la plus stable en fait, où on n'a pas de tourbillon, où on n'a pas de thermite qu'on appelle, créé par le soleil. Et il faut que pour le ballon que ce soit le plus stable possible. C'est pour ça que c'est toujours le moment de bonheur le matin, en ce moment le rendez-vous c'est 6h moins le quart le matin. Pour certains ça pique un peu, pour décoller en fait en même temps que le lever du soleil. On vole une heure, le temps que le soleil ne chauffe pas trop la masse d'air, et que ça reste stable. Mais tous les gens qui ont volé le matin sont jamais déçus de se lever de bonne heure, parce qu'en fait, c'est toujours les vols les plus beaux. On a toujours une belle lumière, c'est très calme, c'est toujours agréable.
Pourquoi c'est mieux le matin que le soir?
Je vous disais, par rapport à la lumière, ouais. Hein, on a vraiment une lumière très claire, hein, il n'y a pas de pollution, enfin tout est vraiment très calme. La campagne est très calme, il n'y a pas de bruit de circulation, on entend vraiment les oiseaux, on entend tous les animaux sont sortis, on voit les chevreuils, les lièvres, hein, c'est toujours plus calme le matin. Après le soir c'est très intéressant aussi, mais c'est pas le même niveau, on va dire. Hein, cool. Et puis on est limité le soir en temps, parce que en fait on se pose avant que le soleil se couche, hein, pour avoir le temps de plier pendant qu'il fait jour. Donc de toute façon, on ne va pas faire de rabat. Que le matin, on peut être amené à faire un petit peu de rabat.
Combien de personnes vous pouvez embarquer? Ça se calcule comment? Au nombre de personnes ou au poids?
Eh bien les deux, en fait. En fait, moi, j'ai un ballon de 3000 m3 qui conditionne le poids que je peux emmener, le poids total. Hein, donc moi, je prends 3 personnes. 3 personnes avec moi, on est 4 dans la salle, je ne peux pas prendre plus. Hein, voilà. Simplement, et après, suivant le poids des gens, comme je prends souvent un couple et une personne en plus, eh bien, j'appelle les gens en fonction du poids de chacun pour pas dépasser le maximum autorisé par la montgolfière.
Alors, décrivez-nous la nacelle, parce que quand on la voit comme ça, on se dit bah, c'est une nacelle en osier, donc ça ne doit pas être hyper solide. C'est fichu comment, en fait? C'est construit comment?
Bien justement, c'est le paradoxe, en fait, parce qu'il a été essayé plein de matériaux, et il s'avère que c'est l'osier qui reste le plus solide. Hein, on a quand même un cadre avec du bois et du métal, hein, un cadre assez solide, hein, mais l'entourage, c'est de l'osier, ce sera toujours de l'osier, en fait, c'est toujours de l'osier, parce qu'il s'avère que quand on a un atterrissage un peu brutal, un peu plus costaud, l'osier va se déformer, hein, va se déformer, mais il va toujours reprendre sa forme. Et c'est ce qu'il y a de plus souple, en fait.
C'est ce qu'il y a de plus beau. Quand les gens sont avec vous sur dans la montgolfière, est-ce qu'ils participent un petit peu à l'activité, ou est-ce qu'ils ne font que regarder? Est-ce que vous les associez un peu comme des fois sur un bateau?
Bien, complètement, ça fait complètement partie du vol. C'est bon, l'intérêt d'une petite structure comme la mienne, c'est que j'ai besoin des gens pour monter le matériel, en fait. Donc ils m'aident, hein, ils m'aident à mettre le matériel en place, à gonfler le ballon. Hein, et ensuite, ils m'aident à ranger le matériel après le vol. Et les gens adorent ça. Les gens adorent toucher le matériel, participer. Et j'ai fait voler des gens qui avaient volé dans des grosses structures où ils touchaient à rien, et ils disaient que c'était un peu frustrant, en fait. Hein, tout était prêt quand on arrive, et puis après, bon, on boit un coup pendant que l'équipe plie le matériel. Et c'est frustrant. Et les gens adorent, en général, donner un coup de main. Après, on prend le temps, suivant l'âge des personnes, on va plus ou moins vite, mais on y arrive toujours.
Est-ce qu'il y a des contre-indications du fait qu'on est en altitude, risque éventuellement un peu de vertige ou de choses comme ça? Est-ce qu'il y a des contre-indications?
Alors, au niveau du vertige, on assure les gens qu'ils n'auront pas le vertige. On n'est pas relié au sol, donc de toute façon, on ne peut pas avoir le vertige. On a certifié à des gens, on leur a même dit que s'ils avaient le vertige, on allait les rembourser. Ils ont tous été étonnés. En fait, on n'a jamais eu à rembourser. Hein, on peut avoir une petite appréhension les 5-10 premières minutes, le temps de monter, l'altitude. Mais les gens sont très étonnés de ne pas avoir le vertige, et le fait que ce soit très calme, rien ne bouge, en fait, l'appréhension passe très vite. Hein. Les contre-indications, après, bon, c'est les femmes enceintes. Hein. Les femmes enceintes, les gens un peu fragiles des os, on va dire. Hein, si on a un atterrissage un peu brutal, papy qui doit se faire refaire la hanche, c'est pas trop indiqué. Les problèmes cardiaques, bon, il faut vraiment avoir de gros problèmes cardiaques, parce qu'on monte pas très haut. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de soucis. Hein. C'est à peu près tout, quoi. Hein. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui a une hanche refaite avec du métal que quelqu'un qui doit se la faire refaire. La hanche refaite sera plus costaud que celle que l'ancienne. Hein. Donc, ça pose pas de problème de ce côté-là.
À l'arrivée, vous avez dit qu'il y a toujours un petit moment. Je sais que j'ai déjà vu ça de nuit en plein milieu d'un champ. Ça fait un peu bizarre. C'est assez hallucinant. On voit des personnes autour d'une nacelle. Ça se passe comment, votre petit pot de fin d'activité?
Bien, en fait, une fois qu'on a rangé tout le matériel dans le camion, on sort la petite table, hein, la petite nappe, et puis de quoi casser une petite croûte. Hein, c'est les rillettes. Hein, c'est les rillettes du coin. Il n'y a pas de souci. Un petit rosé ou un petit jus de pomme du coin, puis un petit gâteau fait par ma femme. Et souvent, on passe plus de temps dans le champ à boire un coup en pleine nuit et à discuter que la longueur du vol, en fait. Une fois qu'on est parti, et puis des fois l'agriculteur du coin, si on n'est pas loin, il vient avec nous, il boit un coup aussi, et puis on discute, et puis la soirée se passe comme ça, et on rentre souvent très tard.
Alors ça fait 3 ans maintenant que vous êtes en activité ici sur ce Nordsarthe, sur les Alpes Mancelles. Vous vous êtes formé comment? On doit avoir un diplôme, un permis de voler quand on est en montgolfière?
Oui, un brevet d'État. Délivré par un instructeur diplômé. Moi, ce diplôme, je l'ai eu en 2002. Ça fait presque pratiquement 20 ans que je vole, quoi. Avant, bon, je volais en dilettante, on va dire, quelques heures par an. Puis j'ai décidé d'en faire mon métier il y a 4 ans, et puis on s'est lancé il y a 3 ans. Oui, tout le monde ne peut pas se lancer pilote de montgolfière comme ça du jour au lendemain.
Alors, si on veut voler en montgolfière, comment on fait? Comment on vous contacte? Où est-ce qu'on va? Comment ça se passe? Vous avez un site internet où on peut avoir les infos?
Exactement. Les gens souvent m'appellent déjà d'un premier abord pour avoir quelques renseignements, savoir comment ça se passe. Ensuite, moi, je les dirige sur notre site internet où il y a tous les renseignements liés à notre activité et des petites fiches à tirer, en fait, des fiches de renseignement. On demande des renseignements sur la personne, des fiches d'inscription, qu'il nous renvoie avec le paiement. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a la fiche en retour, on considère que les gens sont inscrits. On leur demande leur disponibilité, on leur demande leur âge, leur poids. Et puis après, suivant la date qu'ils choisissent, parce que certains veulent une date précise, on essaie de la respecter. Après, c'est la météo qui décide. Mais sinon, j'appelle les gens au fur et à mesure de l'inscription et puis on décide d'une date quand la météo veut bien marcher.
Si je comprends bien, c'est au maximum 2 vols par jour.
C'est 2 vols par jour, exactement. On ne peut pas faire plus. De toute façon, ça, c'est le maximum.
Est-ce qu'il y a des saisons qui sont plus favorables que d'autres? Et donc, on l'a dit tout à l'heure, choisir plutôt le matin, si j'ai bien compris.
Bon, l'activité commence fin mars, début avril en général, jusqu'à fin octobre. Mais toutes les périodes sont belles. La campagne est toujours belle dans la région. On a la chance d'avoir une campagne préservée quand même. Il y a encore pas mal de bocages, d'élevages. Il y a la rivière qui est quand même sympa à traverser plusieurs fois. Donc, quelle que soit la saison, on prend son pied. Il n'y a pas de souci.
Un numéro de téléphone pour vous contacter, pour en savoir plus?
Alors moi, mon numéro portable, c'est 06 77 16 09 32. Et notre site internet, c'est 7e Ciel Montgolfière. Tapez 7 étoiles montgolfières, vous allez tomber sur notre site internet. Et sinon, on a une page Facebook que ma femme entretient très bien. Ceux qui ont Facebook peuvent aller dessus. Il y a tout un tas de photos, de petits films, de commentaires et de renseignements qui est très intéressant. Ils auront tout là-dessus sur notre activité et sur notre vie depuis notre arrivée à Saint-Ouen.
Merci à vous, Philippe Breton. Donc, nos vacances, inattendues étaient en étape à Saint-Ouen-de-Mimbré, en Sarthe, pour découvrir l'activité de la montgolfière avec 7e Ciel Montgolfière.
Nos vacances inattendues vous sont proposées à 10h, 12h30, 18h30 sur votre radio locale Fréquence Sillé.
Retrouvez nos chroniques en podcast sur www.fréquence-sillé.org.
Ces chroniques sont réalisées avec le soutien des offices de tourisme,
des Coëvrons,
de la vallée de Haute-Mayenne,
du Mont des Avaloirs,
d'Alençon, destination Normandie,
des Alpes Mancelles,
destination Coco, Champagne Conlinoise, pays de Sillé.
Bonnes vacances chez nous.